Mes frères bien-aimés, vous en conviendrez avec moi, quand il était parmi les hommes, le Christ n'a jamais perdu son temps. Déjà parce qu'il est Dieu, donc il n'a jamais été feignant, il n'a jamais été flemmard. Mais surtout, s'il n'a jamais perdu son temps, c'est parce qu'il savait qu'il ne viendrait qu'une seule fois sur terre dans toute l'histoire de l'humanité. C'est parce qu'il savait qu'il n'aurait que 33 ans à vivre. Et c'est parce qu'il savait qu'il avait une mission unique et irremplaçable à remplir sur ses quelques années d'existence. Rendre l'amour de Dieu palpable. Aussi, chacune de ces secondes était comptée, était bien pensée, afin que sa tâche soit non seulement accomplie, mais encore réussie. Et bien, malgré ce que nous venons de dire, force est de constater que le Christ a pris son temps. En effet, sa vie publique, durant laquelle il a donné ses enseignements et opéré ses miracles, il ne l'a commencé qu'à 30 ans. Mais qu'a-t-il fait de 20 à 30 ans? Pourquoi n'a-t-il pas entamé sa croisade des cœurs plus tôt? Surtout quand on sait qu'à 12 ans, il a ébloui tous les pharisiens et les docteurs de la loi au temple de Jérusalem. Il avait donc largement les capacités dès son jeune âge et n'avait pas besoin d'attendre si longtemps. D'autant plus qu'il sera crucifié à 33 ans. Sa vie publique n'aura donc duré que 3 années. Mais pourquoi n'a-t-il pas arrêté de raboter et de poser des poutres bien avant la trentaine? Et ce n'est pas tout. Après avoir enfin commencé sa vie publique, en se faisant baptiser dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste, en ayant suscité la curiosité des foules par la descente du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe et par le retentissement de la voix du Père, voilà que le Christ se retire 40 jours au désert et ne profite donc pas de l'occasion. C'est à se demander s'il ne fait pas sa crise d'ado et qu'il remet toujours à plus tard ce que son Père lui demande d'accomplir par son incarnation. Bien évidemment, le Christ ne fait pas sa crise d'ado. Mais en fait, il nous fait comprendre sans ambiguïté qu'avant d'accomplir la vocation de notre vie, avant de donner ce pourquoi on est venu sur terre, il convient que nous prenions du temps. Malheureusement, c'est là une leçon que notre époque a totalement oubliée. Elle qui croit que la vie s'arrête avec la mort et qui par conséquent vit à un rythme effréné. On veut alors être au top, de plus en plus jeune. Et voilà que les modèles qui sont mis en avant par les médias sont des sportifs ou des chanteurs qui percent à 16 ans, si ce n'est moins. Et une fois qu'ils ont dépassé la trentaine, on les jette comme des vieux Kleenex. Alors que c'est justement là qu'ils possèdent ce qu'ils ont de meilleur à donner à la société. Aussi, à la suite du Christ, il convient que nous rappelions à notre jeunesse qu'elle ne doit pas être trop pressée. Quand on sort du lycée, on veut être fixé au plus vite. Une année nous paraît une éternité. Et alors, à 25 ans, grand maximum, on veut avoir quitté la maison de papa et maman, on veut avoir décroché son job de rêve, on veut être marié, on veut avoir des enfants, on veut avoir acheté sa maison. Et on se met une pression de dingue, et on fait tout pour atteindre ses objectifs temporels, y compris au risque d'orienter sa vie dans une direction qui ne nous plaît pas vraiment. Mais que voulez-vous? Il ne faut pas perdre de temps. Prendre une année sabbatique, par pitié, non. Couper une relation qui dure depuis 5 ans, mais qui ne semble pas fructueuse, quelle honte! Changer de formation, alors qu'on en est déjà à la moitié, à ça, jamais. Voilà des réactions dramatiques, mais si courantes. Aussi, mes frères, si nous sommes jeunes, arrêtons de courir comme des dératés, sans savoir où l'on va. Et si nous sommes âgés, encourageons les jeunes à se poser et à considérer leurs premières années à l'aune de toute leur vie et même de toute l'éternité, ce qui donnera autant sa juste valeur, et 1, 2 ou 3 années de tâtonnement paraîtront alors bien maigres. Le temps n'est pas notre ennemi. On a l'impression que le temps qui passe, c'est autant d'opportunités ratées et qu'il faut alors vivre à 200 à l'heure pour ne rien louper. Eh bien, c'est là se fourrer le doigt dans l'œil. Car en fait, le temps est notre ami et il permet 3 choses indispensables pour conduire sa vie. Voilà pourquoi il faut le prendre avant d'engager son existence dans des voies définitives ou disons durables. En premier lieu, le temps permet de mûrir intérieurement, de découvrir qui on est, son caractère, sa personnalité, d'identifier ses talents et ses intérêts et de les développer pour créer un univers en soi. Franchement, que sait-on de soi-même à 18 ans? Pas grand-chose. Et qu'a-t-on à offrir au monde à 18 ans? Là encore, pas grand-chose. Donc ne nous précipitons pas. On risquerait de donner quelque chose de fade au monde, qui serait alors déçu de nous, et on risquerait surtout de se vider de soi-même. En deuxième lieu, le temps permet de gagner en expérience, d'ouvrir son horizon à de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouveaux pays, mais aussi d'apprendre les erreurs à éviter et les bonnes idées à imiter. Là aussi, il faut bien reconnaître qu'à 18 ans, notre sagesse est encore bien faible, parce qu'on ne sait rien de la vie et de la complexité que renferme chaque être humain. Donc, ne nous précipitons pas. On risquerait de donner des réponses toutes faites à soi-même et aux autres, et de blesser ou d'étouffer par là la perle qui se trouve en chacun de nous. Enfin, en troisième lieu, le temps permet de s'aguerrir en affrontant les épreuves inhérentes à notre condition humaine, mais aussi les assauts, justifiés ou injustifiés, lancés par ceux que l'on rencontre. Quand on a 18 ans, on est rarement persévérant, on est rarement solide, parce qu'on n'a pas encore eu à prouver quoi que ce soit. Donc, ne nous précipitons pas. On risquerait de construire un château de cartes et de s'écrouler aussi vite qu'on s'est élevé. Vous connaissez sans doute Platon, ce grand philosophe grec. Pour lui, la philosophie était bien sûr le sommet de la sagesse humaine. Et par conséquent, les philosophes étaient ceux à qui il revenait de gouverner les villes et les pays. Eh bien, il affirmait qu'à 30 ans, on ne savait pas philosopher, mais que ce n'était qu'à partir de 50 ans qu'on pouvait être un bon philosophe et qu'on pouvait alors être à la tête d'une cité. Donc, patience. Alors attention, mes frères, je ne dis pas qu'il faut attendre à tout prix et attendre des années. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'engager avant 30 ans. Mais je dis qu'il faut suivre son rythme, suivre sa maturation. Bien évidemment, si on a une vocation depuis que l'on est petit et que cela ne fait pas un pli, allons-y sans attendre, que ce soit le sacerdoce, la couture, le monastère ou le médical. Si on a rencontré la personne de nos rêves et qu'après quelques mois de réflexion, l'amour est encore là, marions-nous sans attendre. Mais voyez, on y va parce que les choses s'imposent d'elles-mêmes, de l'intérieur. On ne se marie pas avant 25 ans parce qu'il faudrait se marier avant 25 ans. On ne fait pas une grande école parce qu'il faudrait faire des études prestigieuses. Arrêtons de vouloir correspondre à des schémas imposés par la société, par notre famille ou par nous-mêmes. Bien plutôt, prenons le temps de découvrir ce qui nous convient à nous. En fait, tout l'enjeu est de suivre son destin, pas de vouloir correspondre à des images prédéfinies. Et pour cela, il faut être moins dans l'anticipation et davantage dans l'écoute. Il faut être plus attentif à ce que nous sommes qu'au plan qu'on s'est fait ou qu'on a fait pour nous. À observer avec minutie comment se développe notre personne, cela prend du temps, c'est clair, mais c'est indispensable pour ne pas gâcher ce que Dieu a déposé en nous. Donc, grandissons tranquillement, certes, sans tomber dans l'excès de prudence, mais tout de même sans nous presser. Et alors nous serons sûrs d'avancer sur les chemins du ciel, car ce qui est construit avec le temps résiste au temps. Amen.